Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Vendredi 17 janvier, il est 7h.
La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, les locataires mauvais payeurs bientôt blacklistés. Une mesure censée protéger les propriétaires qui fait polémique. On voit ça dans un instant. Comment la SNCF va-t-elle combler les pertes dues à la grève? Déjà près d'1 milliard de déficit selon la compagnie. Et puis une crise humanitaire au Zimbabwe alors que l'Afrique australe est fortement touchée par la famine.
Radio Classique.
C'est une initiative, Sophie Echen, de la Fédération Nationale de l'Immobilier, la FNAIM, qui inquiète les associations.
Créer un fichier des locataires mauvais payeurs. L'idée est de protéger les bailleurs. Ce fichier recensera les locataires en retard de paiement de 3 mois. Henri Buzicazo est président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Il estime que ce dispositif permettra de fluidifier les transactions.
On dit à un gestionnaire avec qui on va prendre un rendez-vous, j'ai perdu mon travail, je suis passé à temps partiel, mon couple vient de se rompre, on ne le dit pas à son propriétaire. Ce qui va se passer avec ce fichier, c'est qu'on préviendra bien évidemment les difficultés, comme avec le fichier des incidents de paiement bancaire. On n'attend pas d'être sous la ligne de flottaison pour appeler son banquier pour lui dire voilà, j'ai perdu mon travail.
Et du côté des locataires, forcément, la mesure fait grincer des dents. Jean-Louis Kiel, lui, est le président du Crésus, une petite association alsacienne devenue réseau national de lutte contre le surendettement. Pour lui, cela ne ferait que stigmatiser les mauvais payeurs.
Ça représente une sanction pour des personnes qui ont peut-être du mal à payer leur loyer. Le créancier a toujours des voies d'exécution à sa disposition. Vous le savez bien, il peut saisir un huissier pour faire une saisie conservatoire. Il a des outils, mais rajouter cela, ça risque de créer un fichier de l'exclusion.
Des propos recueillis par Éric Mauban, ce dispositif devrait être opérationnel en 2021 dans la foulée de l'entrée en vigueur de la loi Nogal sur les relations propriétaires-locataires.
1 milliard d'euros, c'est ce que devrait coûter la grève contre la réforme des retraites à la SNCF.
C'est Jean-Pierre Farandou qui l'a annoncé hier. Le PDG de la société ferroviaire compte dévoiler un plan d'économie en février sans pour autant supprimer d'emplois sur le terrain. Alors comment le nouveau patron de la SNCF va-t-il s'y prendre? La réponse avec Gilles Dansart, journaliste à Mobilettre.
Pour compenser ces pertes, Jean-Pierre Farandou imagine un plan d'économie. Il y aurait éventuellement des cessions d'actifs, il l'a déjà évoqué la semaine dernière. Il pourrait aussi y avoir une réduction des investissements ou un étalement dans le temps de certains investissements décidés, comme par exemple l'achat de rames TGV. Et puis on peut aussi imaginer que l'actionnaire, c'est-à-dire l'État, pourrait aussi aider la SNCF à passer ce mauvais cap, par exemple en renonçant à certaines taxes, en tout cas en assumant une partie des conséquences que la réforme des retraites a eue sur l'entreprise nationale.
Gilles Dansart avec Céline Cajoulis. 44e jour de grève aujourd'hui et le trafic à la SNCF revient progressivement à la normale après 6 semaines de conflit. Hier, 187 000 personnes ont manifesté dans toute la France, selon les chiffres de l'intérieur, dont 23 000 à Paris. La CGT, elle, en revendique 250 000 dans la capitale. Les syndicats restent déterminés avec un nouveau rendez-vous le 24 janvier, jour d'examen du projet de loi en Conseil des ministres.
Et au Parlement, justement, l'emploi du temps autour de cette réforme s'annonce très serré.
On connaît désormais l'équipe des 7 co-rapporteurs du texte à l'Assemblée nationale. Le député La République En Marche du Val-de-Marne, Guillaume Gouffier-Chat, sera rapporteur général. Le projet de loi sera donc examiné selon la procédure accélérée, mais le texte divise Victoire Fort et la majorité a peur de crouler sous les amendements.
Les plus optimistes, ceux dont la faconde n'a pas été perturbée par la mobilisation, verraient presque dans l'arrivée du texte en commission une grande et bonne nouvelle. Sauf qu'au sein du même groupe, l'aile gauche est scrutée de près. Dans le viseur, le député Jean-François Cesarini.
Forcément, le gouvernement va nous dire, vous comprenez, vous avez vu à quel point ça a été compliqué d'arriver à un équilibre, donc ne venez pas trop amender pour déséquilibrer tout ça.
À coup de tribune dans la presse et de rencontre avec Laurent Berger, son groupe a quelque peu clivé.
Je crois qu'on a eu raison. Notre travail de parlementaire, vous savez, des fois, il n'est pas que dans l'hémicycle, il n'est pas que à amender, même si on le fera là encore.
Ce qu'on espère surtout, c'est qu'on n'aura pas de coup en douce de leur part, souffle un député, qu'ils créent leur propre groupe. Des amendements sur la retraite minimum ou sur les critères de pénibilité émanant de l'opposition de gauche pourraient séduire des marcheurs. Et puis, les LR risquent de multiplier les contributions. Bruno Bonnel, député LREM proche d'Emmanuel Macron.
Il y a un risque objectif que ce texte prenne plus de temps qu'espéré. Ceci dit, à un moment donné, il y a d'autres lois aussi qui attendent. Donner des bornes à une discussion législative, c'est plutôt sain.
Alors, pour ne pas se faire déborder, il faut rassembler les troupes. Un travail d'orfèvre pour un texte ô combien technique.
Victoire Fort.
Rien ne va plus pour les grands noms de la gastronomie française.
Après Marc Véra en décembre dernier, c'est au tour de Paul Bocuse de perdre sa 3e étoile au guide Michelin. Quasiment 2 ans, jour pour jour après la disparition du chef lyonnais, sa célèbre auberge de Collonges au Mont d'Or perd cette distinction qu'elle détenait depuis 1965. À l'étranger, Washington reconnaît finalement que 11 soldats américains ont été blessés dans l'attaque iranienne d'une base aérienne en Irak la semaine dernière. Donald Trump avait démenti. Et alors que les tensions sont toujours vives entre l'Iran et les États-Unis, le président iranien Hassan Rouhani affirme vouloir éviter la guerre.
Enfin, c'est une plaie venue d'un autre temps. On en a l'impression, 45 millions de personnes menacées par la famine en Afrique australe.
Un chiffre malheureusement record à cause de la sécheresse, des inondations et des difficultés économiques des pays de la pointe sud du continent. Le plus touché d'entre eux, c'est le Zimbabwe. 8 millions de personnes sont menacées par ce fléau. C'est la moitié de la population. Valérie Cellon est directrice régionale d'Action contre la faim dans cette zone de l'Afrique. Elle tire la sonnette d'alarme.
On a à la fois une crise climatique avec 2 sécheresses consécutives en 2018 et 2019. Également le cyclone Idai qui a ravagé une partie du pays en mars dernier. On a aussi une crise économique et financière avec un phénomène d'hyperinflation, des pénuries alimentaires, des pénuries de médicaments dans un pays où la prévalence du VIH est très élevée. Et aussi une crise sociale qui en découle avec des grèves massives, par exemple du personnel de santé, puisque le pouvoir d'achat est énormément baissé et on estime que la situation est amenée à se détériorer au cours de l'année. Avec la dégradation de la situation, les besoins augmentent et nous avons besoin de davantage de financement pour répondre à la crise.
Valérie Cellon d'Action contre la faim avec Lucie Coquart, et pour aider l'organisation, rendez-vous sur le site données.actioncontrelafaim.org. Un mot de football pour finir, et Pau crée la surprise en s'imposant contre Bordeaux en 16e de finale de Coupe de France. Victoire 3-2 pour les Béarnais.
Oui, je ne sais pas à quel niveau ils jouent les Palois, mais je crois que ça doit être en national. Donc c'est vraiment une sacrée performance. Il n'y a que la Coupe de France pour nous offrir ce genre de surprise. Merci Sophie Echen. Vous revenez à 8h dans un instant. Édito Écho de François Vidal. On va parler de ce phénomène de déconsommation qui frappe de plein fouet la grande distribution. Et puis juste après, focus sur le viager et dans sa version modernisée 2.0 avec l'un de ses inventeurs, Amaury de Calonne. Il est le président de Monetivia, 7h07.